Banque Atlantique, filiale du groupe Banque Centrale Populaire, vous propose l'émission Appel sur l'actualité.
Banque Atlantique, grandir ensemble.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Bon début de semaine, merci d'être avec nous, l'antenne vous appartient, c'est une journée hautement symbolique, certains diront même historique pour la famille de Patrice Lumumba et pour la République démocratique du Congo, puisque ce lundi, les autorités belges remettent une dent appartenant aux héros de l'indépendance du Congo. Cette dent, c'est tout ce qu'il reste de Patrice Lumumba, assassiné il y a 61 ans et dont le corps a été dissous dans l'acide. Alors 61 ans après, que vous inspire cette restitution et dites-nous également, quel héritage Patrice Lumumba a-t-il laissé? Quelle image avez-vous en 2022 de ce héros national qui, au-delà des frontières congolaises, est considéré comme l'une des grandes figures de l'indépendance des États africains? On en parle ce matin dans 30 minutes, donc continuez à nous appeler, à nous rejoindre au standard 33 9 693 693 70 et je vous attends comme tous les jours sur nos réseaux sociaux. Mais d'abord, ce sont vos questions à la rédaction pour mieux comprendre l'actualité. Et on va justement commencer avec une question concernant cette actualité du jour. Bonjour Antifa.
Bonjour Andromède.
Et merci de nous appeler de Douala au Cameroun, où il pleut à verse, me dit-on. Antifa, quelles sont vos questions?
Oui, Juan Gomez, le gouvernement belge a voulu remettre la dent de Patrice Lumumba aux familles congolaises. Et ma question est la suivante, Juan.
Oui.
Comment les Belges ont-ils gardé cette manche de dent? Et pourquoi cette manche de dent doit être rendue à la famille de l'État et non à l'État congolais?
Alors, une dent. Alors, on va déjà répondre à ces deux premières questions en Antifa, même si le réseau téléphone n'était pas très bon, mais vous vouliez comprendre comment les Belges ont-ils mis la main sur cette dent. Cette dent, je vous le rappelle, c'est tout ce qu'il reste de Patrice Lumumba. Bonjour Pierre Firsion.
Bonjour Juan.
Merci d'être avec nous en direct de Bruxelles, où vous êtes l'un des envoyés spéciaux de RFI et où doit commencer dans les prochaines minutes la cérémonie de restitution de la dent à la famille Lumumba. Cérémonie pour l'instant privée. Ensuite, il y aura le deuxième temps fort de cette journée, la cérémonie officielle en présence des autorités belges et congolaises. Pour revenir à la question d'Antifa, comment cette dent s'est-elle retrouvée en Belgique?
En fait, c'est la justice belge qui a mis la main sur cette dent en 2016. Hein. Elle était chez la fille d'un policier belge, Gérard Soult, qui avait été chargé à l'époque, en 1961, de faire disparaître le corps. Et c'est la justice donc qui l'a récupéré après la plainte d'un journaliste, d'un historien belge, Ludo De Wit, qui est un petit peu à l'origine, hein, vous savez, de toute cette histoire. Ludo De Wit, c'est un personnage central, d'ailleurs, qu'on vient de croiser, qui participe aujourd'hui à cette cérémonie. C'est lui qui va interviewer ce policier belge au début des années 2000. Et ce policier, eh bien, il va raconter l'histoire, la façon dont il a fait disparaître le corps de Patrice Lumumba. Et il dit à ce moment-là qu'il a deux dents en sa possession. Il va montrer à la télévision belge ses deux dents. Il va dire après coup qu'il s'en est séparé, mais 16 ans plus tard, eh bien, sa fille va dire « Non, regardez, j'ai encore une dent en ma possession ». Elle le montre à un journal flamand. Du coup, Ludo De Wit et la famille de Patrice Lumumba portent plainte contre la fille de Gérard Soult pour recel. Résultat, la justice perquisitionne son domicile, récupère la dent et du coup va la mettre au parquet fédéral, va la garder précieusement dans un écrin au parquet fédéral. Et c'est pour cette raison, en fait, Juan, et je réponds en cela à la deuxième question,
oui.
C'est pour ça que c'est la justice belge, en fait, qui a décidé, qui a ordonné en septembre 2020 de remettre la dent à la famille, parce que la plainte a été déposée par Ludo De Wit, mais aussi la plainte pour recel, mais aussi par la famille de Patrice Lumumba. Du coup, la justice a dit il faut rendre la dent non pas à l'État congolais, mais à la famille de Patrice Lumumba.
Voilà, on a répondu donc à vos deux premières questions, Antifa. La dernière.
La dernière question dit que fera-t-il avec cette manche de dent, le gouvernement congolais?
Alors, puisque effectivement la dent sera placée dans un cercueil qui sera exposé jusqu'à demain soir à l'ambassade de la République démocratique du Congo à Bruxelles, et puis ensuite le cercueil décollera pour Kinshasa, départ prévu demain soir, et ensuite Pierre Firsion, qu'ont l'intention de faire aussi bien la famille de Patrice Lumumba que les autorités congolaises ?
Alors, en fait, il y a tout un parcours qui est prévu. D'abord, avant, on pourrait dire, l'arrivée finale, il y a tout un parcours qui est prévu en RDC. La dépouille de Patrice Lumumba va passer notamment par Onalwa, dans le Sankuru. C'est le village de naissance de Patrice Lumumba. Elle va passer aussi par Lubumbashi. Ensuite, elle reviendra à Kinshasa. Et c'est là où il y a un mémorial qui a été érigé en mémoire de Patrice Lumumba, et c'est là où le cercueil sera déposé. Il y aura toute une cérémonie qui doit se dérouler, je crois, autour du 29-30 juin prochain. Donc, à partir de demain, vous le disiez, l'ADAN repart pour le Congo, et pendant une semaine environ, elle va faire un petit peu, on pourrait dire, le tour du pays jusqu'à ce qu'elle revienne dans ce mémorial qui a été érigé pour l'occasion.
Effectivement, pour accueillir la dépouille de Patrice Lumumba, et 3 jours de deuil national sont d'ailleurs prévus en RDC du 27 au 30 juin. Merci infiniment, Pierre Firsion. On se permettra de vous rappeler dans une demi-heure pour voir où nous en sommes des cérémonies. On vous retrouvera donc dans 30-35 minutes, évidemment, pour se tenir informé. Antifa, bonne journée. À Douala, merci infiniment de nous avoir appelés. Je crois que c'était même une première pour vous, première fois que vous passer sur l'antenne de RFI. Au standard, Noël est avec nous. Bonjour.
Bonjour, Juan.
Bienvenue, Noël. Vous êtes à Abidjan, en Côte d'Ivoire, et vous avez des questions sur les élections législatives en France et le second tour hier.
Oui, Juan. Le peuple français s'est à nouveau abstenu massivement lors des deuxième tours des législatives en France. Mmh. Alors, je voudrais savoir comment le gouvernement français compte faire pour pouvoir mobiliser le peuple à venir voter.
Oui, d'autant que ce phénomène concerne aussi bien les législatives que la présidentielle. Bonjour Christelle Lagé.
Bonjour.
Vous êtes maîtresse de conférence en sciences politiques à l'Université d'Avignon. Hier, le taux d'abstention a été plus élevé qu'au premier tour. Hein. Il frôlait 54%, alors que le dimanche dernier, l'abstention s'élevait à un peu plus de 52%. D'abord, il n'y a pas eu de sursaut. Est-ce que vous êtes surprise, Christelle Lagé ?
Non, pas de surprise. Hein. On s'attendait effectivement à une abstention assez forte. Maintenant, c'est vrai qu'on observe aussi que la croissance de cette abstention marque un peu le pas, puisqu'elle est moins forte qu'au deuxième tour des législatives en 2017. Mais c'est vrai qu'on est dans des proportions qui sont très inquiétantes pour la démocratie.
Ouais. Alors la question de Noël est pertinente. C'est, bon, il disait comment le gouvernement, mais comment de façon générale l'État français, la classe politique française peut-elle inciter les Français à aller davantage voter à la venir, est-ce qu'on peut s'inspirer de ce qui se passe dans d'autres pays à travers le monde ?
Oui, alors on peut sans doute s'inspirer de ce qui se passe, mais peut-être pas réduire non plus cette question à une question technique. Et puis surtout que les responsables politiques prennent vraiment à bras le corps cette question. Alors on peut espérer qu'avec une Assemblée nationale diversifiée, toutes les formations politiques soient désormais concernées, du Rassemblement national en passant par la NUP à la majorité présidentielle. C'est sans doute un dossier dont il va falloir se saisir du point de vue de la réforme des institutions.
Et est-ce qu'on peut envisager un vote obligatoire en France, comme c'est le cas par exemple en Belgique, où le taux de participation frôle les 90%, voilà, une participation qui fait rêver tout de même quand on voit ce qui se passe en France. Est-ce que le vote obligatoire vous semble être une des solutions ? Christelle Lagé.
C'est une question délicate hein, parce que le vote en France est considéré comme un droit et non pas comme un devoir, donc très difficile en fait de l'imposer. Et puis surtout, ce n'est pas du tout la solution, c'est-à-dire que vous mettez une punition derrière le fait de ne pas aller voter, là où il faudrait remettre de l'éducation politique. En fait, ça ne résout pas la question de la compétence politique des citoyens et la nécessité d'être au fait des débats politiques et de la compréhension des mécanismes institutionnels pour pouvoir se prononcer.
Ouais, certains mettre sur la table l'idée peut-être d'ouvrir le droit de vote dès l'âge de 16 ans. Est-ce que là aussi, c'est une piste qu'il faudrait analyser, étudier ?
Alors, toutes les pistes sont à analyser. Maintenant, quand on voit le taux d'abstention massive des plus jeunes, et notamment les 18-20 ans, on peut s'interroger sur le fait de l'efficacité d'une telle réforme si elle ne s'accompagne pas, une fois encore, d'éducation politique.
Donc, il faut que ça commence aussi à l'école. Un enseignement.
Tout à fait.
Voilà.
Tout à fait.
Ouais, très bien. Vous souhaitez rajouter quelque chose, Christelle Lagé, pour compléter l'analyse ?
Bah écoutez, on se retrouve avec une assemblée qui va donner du fil à retordre à la majorité présidentielle et sans doute une reparlementarisation de la vie politique, des débats qui auront lieu à l'Assemblée et peut-être pas dans la rue. C'est peut-être la bonne nouvelle de ces élections.
À suivre donc. Noël, a-t-on répondu à votre question ?
Oui, merci Juan, c'est parfait.
Et bonne journée à Abidjan. Merci Christelle Lagier d'avoir été avec nous, maîtresse de conférence en sciences politiques à l'Université d'Avignon, 10h20 à Paris, 8h20 en temps universel. Vos questions, 33 9 693 693 70. Franck Alexandre, journaliste, spécialiste des questions défense à RFI, s'installe dans ce studio. Bonjour Franck.
Bonjour Juan.
Soyez le bienvenu, nous avons des questions de Laurent Fidèle. Il est à Kisangani et il a des questions sur l'une des conséquences de la guerre en Ukraine. Bonjour Laurent Fidèle.
Bonjour Juan Gomez et bonjour également à tous les auditeurs de la radio du Monde RFI.
Merci de nous appeler, nous vous écoutons.
Oui Juan Gomez, le président Emmanuel Macron avait annoncé une réévaluation de la loi de programmation militaire pour la période 2019 à 2025 et cela pour entrer la France dans une économie de guerre. Alors ma question... Concrètement, à quoi va servir cette augmentation du budget de l'armée, surtout que la France n'est pas en guerre ?
Alors, bonne question. Franck Alexandre, la France et l'Union européenne sont entrées dans une économie de guerre dans laquelle nous allons durablement devoir nous organiser. Voilà les propos déclarés la semaine dernière par le président Emmanuel Macron. Qu'est-ce que ça signifie ?
Ça signifie qu'à l'aune de la guerre en Ukraine, la doctrine a changé et que la nécessité d'accélérer est désormais flagrante. Pour preuve, Juan, tous les pays européens au sein de l'OTAN renforcent leur budget militaire. Un exemple, le Parlement allemand a voté en urgence il y a quelques semaines un budget exceptionnel de 100 milliards d'euros pour remettre ses forces armées à niveau. Alors attention, la loi de programmation militaire 2019-2025 ne concerne pas ce basculement dans une économie de guerre. C'était une LPM dite de réparation. Elle s'établit
LPM.
Aujourd'hui une loi de programmation militaire donc 2019-2025. Elle s'établit cette année à peu près à 40 milliards d'euros pour atteindre à l'horizon 2025 50 milliards d'euros. Donc l'économie de guerre, c'est encore autre chose. Mmh. Tous ces milliards, il faut bien comprendre à quoi ils vont servir. Aujourd'hui, les trois armées, l'armée de l'air, l'armée de terre et la marine, ont besoin de renouveler leur matériel. Alors par exemple, la marine lance ses nouveaux sous-marins nucléaires d'attaque. Le premier, le Suffren, est déjà à l'eau. Les autres vont suivre. Ensuite, il faudra régénérer la flotte de sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, ceux qui assurent la dissuasion nucléaire. L'armée de l'air, elle, à l'horizon dans 20 ans, c'est très court, aura besoin d'un chasseur de 6e génération pour remplacer le Rafale. Quant à l'armée de terre, elle doit se durcir. Un exemple, par exemple, les canons César, dont on a beaucoup parlé, puisqu'on en a donné 18 exemplaires à l'Ukraine. Ce sont des canons de 155 mm, les plus gros qui existent, autoporteurs, c'est unique au monde. Même les Américains nous l'envient. On en avait 76 exemplaires, moins 18 aujourd'hui. Oui. C'est bien trop peu pour s'engager dans un conflit dur. Donc, sans oublier bien sûr les stocks de munitions qui sont aujourd'hui à un niveau trop faible pour d'âpres combats. Donc, effectivement, il faut investir massivement dans tous les domaines.
Alors, ça veut dire quoi concrètement, Franck Alexandre, que le budget de la défense va encore augmenter ou pas forcément ?
Ah ben, nécessairement.
Nécessairement.
Nécessairement. Pas d'argent, pas de Suisse, comme on dit dans les armées. Il y a deux conditions. Deux conditions pour remettre nos armées à niveau. Déjà, il faut que les industriels soient capables de produire massivement des matériels. Et deuxièmement, ben, c'est très trivial, pour arriver à cela, eh bien, il faut de l'argent. Et il faut beaucoup d'argent. D'un point de vue industriel, pour se positionner, se mettre en condition d'une économie de guerre, qu'est-ce qu'il faut ? Eh bien, il faut que les industriels identifient toutes les lignes de production susceptibles de basculer au profit des armées. C'est-à-dire qu'un industriel qui fabrique des voitures puisse fabriquer peut-être des véhicules blindés, etc., etc., etc. Ensuite, bien sûr, il faut voter les budgets. Ça, c'est une autre paire de manches.
Alors justement, Laurent Fidèle, c'est votre dernière question.
Oui, évidemment, c'est la dernière question. Est-ce qu'avec le résultat des législatives d'hier, le président Emmanuel Macron aura la facilité de faire passer cette réévaluation de la loi des programmations militaires ?
Surtout qu'il n'a plus la...
actuelle de l'Assemblée nationale.
Oui, il n'a plus la majorité absolue, Franck Alexandre.
Eh bien non, ça sera extrêmement compliqué, vous l'avez bien compris, vous avez bien identifié le problème. On entre dans une terre inconnue, on ne sait pas comment ça va se passer, comment on va pouvoir voter voté les budgets et les lois. Donc voilà, on va découvrir comment le gouvernement pourra agir. Et pour l'instant, je crois que personne n'a la réponse.
Laurent Fidèle, je vous souhaite une bonne journée à Kisangani.
Merci beaucoup, Juan Gomez. C'était un plaisir pour moi de participer en direct à cette émission.
Eh bien, c'est normal. Plaisir partagé. C'est une première pour vous également. Que des premières. Oh, ouais. Beaucoup de premières. On est content. Merci de votre fidélité et de votre confiance. Franck-Alexandre, bonne journée.
Bonne journée, au revoir.
Journaliste, spécialiste des questions défense à RFI. C'est la dernière question du jour. Elle nous vient de Lomé. Nous allons donc au Togo. Bonjour, Cédric.
Oui, bonjour, Juan.
Bienvenue. Merci. Nous vous écoutons.
Bien. Après plusieurs attaques terroristes au Togo, le Togo a décrété l'état d'urgence sécuritaire dans la région des savanes au nord du pays. Bon, nous avons peu d'informations.
Alors attendez, Cédric, votre voix se robotise. Est-ce que vous êtes déplacé? Peut-être sortez, mettez-vous à l'extérieur qu'on puisse bien vous comprendre.
Oui, je suis à l'extérieur.
Ah, vous êtes à l'extérieur. Ah bah décidément. Alors on va tendre l'oreille. Vous disiez avoir peu d'informations sur ces mesures?
Voilà, nous avons peu d'informations sur l'état d'urgence sécuritaire. Donc, nous voulons savoir ce qu'implique la mise en place de cet état d'urgence sécuritaire.
Ouais, c'est une mesure qui a été prise, effectivement, pour 3 mois et qui peut être prorogée après le feu vert de l'Assemblée nationale. Bonjour, Géry Tahama.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes ancien officier de l'armée togolaise, devenu homme politique. Vous êtes député du parti Nouvel Engagement Togolais, dont vous êtes le président. L'état d'urgence sécuritaire a donc été décrété dans la région des savanes. Concrètement, quel est le dispositif? Qu'est-ce que ça signifie? Géry Tahama, est-ce que vous m'entendez?
Là, je vous entends, il y a eu un petit flottement, mais là, c'est bon, je vous entends très bien.
Et nous aussi, on vous reçoit 5 sur 5. Quel est le dispositif mis en place à travers donc, ce dispositif d'état d'urgence sécuritaire?
Bon, ce qu'il faut d'abord savoir, c'est que l'état d'urgence sécuritaire vient à la suite d'un autre état d'urgence que nous avons connu depuis 2020, qui était l'état d'urgence sanitaire. Donc, c'est pas quelque chose de nouveau. Il faut savoir que le Togo, l'état d'urgence est réglé par l'article 94 de la Constitution nationale, qui dit que dans des conditions particulières, l'État peut prendre des mesures qui peuvent être des atteintes aux libertés et aux droits publics. Et ces libertés-là, ça peut être par exemple des assignations à résidence, des interdictions de circuler. On l'a déjà vu pendant l'état d'urgence sanitaire. Ça peut être aussi des contrôles qui sont plus poussés et qui normalement relèvent aussi des libertés. Donc il y a un ensemble, un corpus de libertés qui peuvent bien entendu être réduites. Et aussi, on peut donner aux militaires un certain nombre de pouvoirs qui, en temps normal, relèvent de l'autorité civile.
Oui.
Mais il faut aussi savoir qu'une fois que le gouvernement prend cette mesure d'état d'urgence, l'Assemblée nationale actuellement, dont je suis président d'un groupe parlementaire au niveau de l'Assemblée nationale va être consultée probablement cette semaine pour davantage étayer les mesures prises dans le cadre de cette état d'urgence. Et bien entendu, comme on le fait rapidement, régulièrement, on reviendra vers la population. Mais les mesures habituelles, c'est des assignations à résidence éventuelles, des interdictions de circulation. On peut avoir aussi des gardes à vue prolongées. Donc tout ce qui relève des attentats des libertés déjà consacrées par notre Constitution.
Et comment être sûr, en quelques mots, Géry Tahama, qu'il n'y aura pas de dérapage ou, comme le craignent certains de la société civile, que certains ne profitent pas de cette situation pour régler des comptes?
Oui, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est que nous avons quand même eu l'opportunité de gérer l'état d'urgence sanitaire. Donc, la plupart des mesures qui vont être prises sont à peu près les mêmes mesures qu'on a eues pendant la période d'état d'urgence sanitaire. Et puis, en règle générale, la région septentrionale est une région où beaucoup d'ONG, beaucoup de sociétés, d'organisations de la société civile sont. Et puis, nous-mêmes, au niveau de l'Assemblée, moi, je suis député de l'opposition, nous veillerons au grain pour s'assurer qu'il n'y a pas des abus.
Bien.
Mais ce qu'il faut savoir, c'est que pour le moment, c'est la lutte contre le terrorisme. Aujourd'hui, c'est une zone qui est très fragile.
Oui. Et c'est voilà. la priorité du gouvernement et la priorité de l'Assemblée nationale. Merci infiniment, Géry Tahama, d'avoir été avec nous, député du Nouvel Engagement togolais.